Bien, alors pendant une petite vingtaine de minutes, on va regarder quelques résultats concernant le travail que Fred a présenté. Donc il conclut en disant qu'on a un petit peu tendance à aplatir finalement le travail de l'enseignant sur le travail de l'élève. Les résultats que je vais montrer rapidement, mais sur lesquels on reviendra aussi durant ces deux jours, c'est finalement en quoi... Alors pas du tout aplatir, mais en quoi l'analyse du travail de l'élève permet-elle au contraire de donner quelques pistes et peut se constituer en ressources, je dirais, pour le métier enseignant. Alors, il me semble que lorsqu'on analyse le travail de l'élève, aussi bien dans la classe qu'en dehors de l'école, hein, c'est-à-dire tout le travail personnel, par exemple, que l'élève peut faire, soit chez lui, soit dans l'ensemble des dispositifs nombreux, multiples et variés qui existent, soit à PACAM, bon, pour l'aide aux devoirs, soit dans des dispositifs de type ALEM ou coup de pouce. Bon, donc, à chaque fois qu'on étudie le travail de l'élève, il me semble qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, parce que ça permet effectivement de connaître le travail pour lui-même, c'est-à-dire ça offre aux enseignants peut-être une meilleure connaissance de non pas ce que font les élèves, mais du moins ce qu'ils disent qu'ils font. Bon, ce qui est relativement intéressant aussi parce que ça permet de déterminer un certain nombre de compréhension, de niveau de compréhension des élèves. On se rend compte, par exemple, hein, pour raconter une petite anecdote, que chez les élèves en grande difficulté, lorsqu'on leur demande comment ils s'y prennent pour faire leur travail personnel, ils déroulent comme cela, je dirais, tout un discours institutionnel, très hiérarchisé, avec des termes très appropriés. Alors, premièrement, il faut s'y prendre comme ceci, donc je prends ma leçon, puis en mathématiques, j'apprends les théorèmes par cœur, puis je refais des exercices ensuite, etc. Donc on voit que chez ces élèves, y compris en grande difficulté, il y a une espèce de connaissance, hein, voire d'incorporation du discours institutionnel qui leur permet de dire ce que finalement l'école attend. Et pour autant, ben, on sait évidemment que malgré la connaissance de ce discours, la réussite, bien entendu, ne suit pas. Donc, je dirais que là, il y a lorsqu'on étudie le travail des élèves, eh bien, il y a une connaissance pour les enseignants qui est relativement intéressante, puisqu'elle permet de mieux comprendre là où se situe un certain nombre de difficultés et d'opacité pour les élèves. On aura aussi l'occasion d'y revenir dans les deux jours. Et puis, on pourrait aussi envisager que ce travail des élèves peut se constituer comme le miroir du travail du professeur. Bien entendu, toute la difficulté, hein, avec les outils qu'a développé Frédéric, toute la difficulté consiste à comprendre comment on va étudier ce travail de l'élève pour que justement il puisse servir de miroir au travail du professeur. Alors, je vais directement prendre un petit exemple. Il s'agit évidemment d'un professeur débutant, donc d'un néo-titulaire en première année, qui est professeur d'histoire-géographie dans un collège en zone d'éducation prioritaire. C'est la fin de son cours d'histoire. Donc, la cloche a sonné depuis déjà plusieurs minutes. Et donc, bon, il y a beaucoup de brouhaha. Les élèves, bien sûr, certains d'entre eux ont déjà rangé les affaires, d'autres sont en train de le faire. Et donc, elle dit, alors pour demain, chut, finir la deuxième question, d'accord, et expliquer en quelques lignes les raisons pour lesquelles le parti nazi connaît un succès croissant. Évidemment, ces raisons, vous les avez dans les questions. Ces quelques lignes, ce n'est pas deux ou trois, non, c'est 10 à 15 lignes. Alors, plusieurs élèves en même temps, oulala, vous faites ce travail pour demain, le petit paragraphe, expliqué en quelques lignes, vous me le faites sur une feuille volante, parce que demain, on n'aura pas le temps de le corriger à cause des journalistes, donc comme je veux vérifier que vous ayez bien compris, vous me le faites sur feuille, c'est bien noté pour tout le monde, les élèves, ça va être noté, probablement. Alors, vous connaissez donc le travail des professeurs d'histoire et de géographie en troisième. Ils distribuent donc des documents. Sur ces documents, c'est un entraînement à l'épreuve du brevet des collèges. Donc il y a des documents là aussi d'origine et de formes diverses, à partir desquels ils sont supposés, les textes disent, un paragraphe argumenté. Bon, bien sûr, les IPR et les collègues d'histoire disent que ce paragraphe argumenté n'a rien ni d'un paragraphe ni d'un argumentaire. Bon, alors c'est un petit peu gênant. Et toujours est-il qu'à partir de ces documents, ils doivent constituer, en tous les cas, une production écrite d'une quinzaine de lignes. Et c'est donc ce que demande ici la collègue. Elle avait prévu, au niveau de son travail, d'étudier les trois documents, type histogramme, ressources documentaires d'un extrait de journal et puis un tableau statistique. Donc elle avait prévu que ce travail se ferait en classe et que l'on commencerait évidemment la rédaction de la production écrite en classe. Or là, visiblement, compte tenu du bruit et des difficultés qu'elle a rencontrées, elle n'a tout juste réussi qu'à faire la première question. La deuxième question n'a pas été faite, la troisième pas du tout. Et donc elle renvoie en tous les cas hors de la classe ce travail qui consiste à terminer la compréhension de la question et surtout la production écrite. Bon, on reviendra là aussi sur cette question-là. Donc le point de vue de quelques élèves que l'on suit régulièrement, notamment sur un collège où on a suivi ces élèves pendant plusieurs mois. Donc une élève qui dit « Moi, j'ai fait plusieurs fois les synthèses, mais il y en a, donc en parlant des élèves, il y en a qui les donnent pas parce qu'elles les demandent pas. Donc si on révise faux, ça fait qu'on fait faux le contrôle. Et dans ce contrôle, c'est le paragraphe que j'ai pas compris parce que le paragraphe en question, on l'avait pas fait en cours. Il fallait le faire nous-mêmes, chez nous. Moi, je l'avais pas fait. Alors, chez cet élève, il y a plusieurs ambiguïtés, il y a plusieurs opacités. Hein, si on revient un petit peu, l'idée, effectivement, que l'enseignante ne récupère pas systématiquement le travail qui est fait à la maison, et donc, du coup, ça re-questionne le statut de ce travail. À quoi sert-il ? Alors bon, mais les élèves qui ont des difficultés se rendent compte rapidement que ce travail n'étant pas contrôlé et du coup pas noté, ça vaut peut-être pas la peine de s'investir. D'autres élèves en histoire-géographie ont compris que finalement, s'ils arrivaient bien à prendre les 2-3 premières lignes des documents, pour peu que ça ne soit pas des graphiques, mais si ce sont des textes écrits, il leur suffit de prendre, disent-ils, 2-3 premières lignes de chacun des 3 documents. 3 fois 3, ça fait 9 lignes. 9-10 lignes, on leur en demande 15. Ils disent, bon an, mal an, ça nous fait 9 sur 10. Finalement, c'est pas trop mal payé au brevet des collèges, sans révision aucune. Bon, ça c'est pour des élèves qui ont déjà un petit peu mieux compris les implicites de l'école. Quant à Elodie, qui est une élève extrêmement faible, elle est tout à fait capable de dire comment, dans la forme, on fait ce paragraphe. Mais évidemment, elle dit le paragraphe que l'on avait fait en classe portait sur le droit de vote des femmes en 46, et au moment du contrôle, il porte sur le double septennat de Mitterrand, puisqu'il s'agit entre autres de la France depuis 45. Et donc elle dit ça n'a aucun lien. Les textes changent tout le temps, on ne peut absolument pas s'entraîner, et surtout pas à la maison. En plus de ça, on ne fait pas le paragraphe en classe, et quand on le fait à la maison, il n'est pas forcément corrigé. Donc elle se sent complètement perdue, et elle a le sentiment que, par exemple, cette organisation de l'histoire est beaucoup plus entravante du point de vue de son travail que les mathématiques, puisqu'elle dit, à tort, que contrairement à l'histoire, les mathématiques, constituent une discipline où il suffit de refaire ce qui a été fait en classe. Elle dit qu'il n'y a que les chiffres et les nombres qui changent, donc il suffit de faire ça pour réussir. Bon, je vous passe le fait qu'elle est aussi très faible en maths, puisque... Mais bon, c'est intéressant aussi de voir l'opacité que certains élèves mettent sur certaines disciplines et comment ils ont le sentiment que certaines disciplines, plus que d'autres, sont par exemple des moments où l'essentiel de l'étude est renvoyé chez eux, en tous les cas sous la seule responsabilité de l'élève et de la famille quand elle peut. Alors, ce même professeur débutant qui va être confronté à ses propres images va opérer un premier changement dans sa manière de faire. Donc, ce qu'on a vu là, ça se situe au tout début du premier trimestre. Et puis là, on est vers la fin du premier trimestre. Donc... Et donc là, je lui dis, au niveau du travail à la maison, ils sont supposés faire quoi ? Pas grand-chose. Parce que je leur donne beaucoup moins de travail qu'au début de l'année, d'une part parce que je m'épuisais à vérifier que le travail était fait, et il y a toujours des élèves qui ne font rien. Et d'autre part parce que c'est tellement la galère. Parce que si on leur donne du boulot, il faut vérifier qu'ils l'aient fait quand même. Si on vérifie pas, il y en a qui vont se décourager, qui vont dire à quoi ça sert et tout. Et puis, ceux qui ne le font pas, il faut donner des exercices, des sanctions, des heures de colle. Et puis aussi, je me suis rendu compte qu'avant, quand je donnais du travail... On passait l'heure à le corriger. Alors, on corrigeait le travail toute l'heure, et à la fin de l'heure, je redonnais le travail à faire à la maison. Et puis après, en classe, on recorrigeait, et tout le temps comme ça. J'avançais pas. Maintenant, c'est plus confortable pour moi. Bon. Donc là aussi, il y a des éléments, des ingrédients, hein, comme dit Fred, qui sont extrêmement intéressants dans la prise en main de son métier et la représentation qu'elle a de son métier. Bon, il y a beaucoup de choses aussi d'un point de vue didactique, c'est-à-dire aussi toutes les difficultés qu'elle a à désigner, les enjeux qui sont autour de cette leçon, et on y reviendra. La notion de temps, hein, comme organisateur de son activité. Alors là, avec, je trouve un extrait extrêmement intéressant, puisque ce à quoi elle est confrontée, c'est justement l'impossibilité, dit-elle, de faire court, parce que finalement, elle passe son temps à donner des devoirs, vérifier, et ça lui prend énormément de temps quand on regarde le film, elle passe d'un élève à l'autre avec un petit cahier, et elle s'efforce de noter par un système de croix celui qui n'a pas fait son travail, celui qui a oublié son matériel, celui qui n'a pas son livre, celui qui a 3 croix sera puni, celui qui en a 5 un petit peu plus puni. Bref, elle tient toute une comptabilité qui la dépasse complètement. Et au bout du compte, il y a une énorme perte de temps. Et effectivement, elle a le sentiment de ne pas avancer. D'où le fait qu'elle n'en est qu'à la deuxième question, alors qu'elle aurait dû traiter les 3 questions et faire le paragraphe. Hein. Donc là, on est dans une difficulté importante. Voilà. Donc, face à cette autoconfrontation et à ce qu'elle voit et ce qu'elle fait émerger de son travail, elle va prendre un certain nombre de décisions, y compris au moment de l'autoconfrontation, en disant que finalement, ce n'était pas du tout efficace que d'agir comme ça, d'autant que les élèves ne faisaient pas leur travail et que dans son métier d'enseignant, elle était payée pour ça aussi, qu'il y avait trop d'inégalités, que finalement, il y avait trop d'élèves qui ne pouvaient pas être aidés chez eux, et donc elle allait décider de donner moins de travail à faire à la maison. Ça, c'est le premier point. Mais en contrepartie, elle va tenter, dit-elle, elle va tenter de donner davantage de travail en classe et elle va essayer d'assumer justement toute cette difficulté, hein, du paragraphe argumenté en classe. Bien. Alors, peut-être... Là, on est un peu plus là, un peu plus tard dans son travail. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas plus de son. Non, ça consiste juste à voir. Mais je suis au son, au maximum du son. Bien. Donc, un petit exemple là, alors je ne sais pas si vous avez bien entendu au début. Donc elle donne un texte long, on voit au début là, sur la soie et de sur un format A3, vous avez vu, c'est écrit tout petit. Et donc elle va décider de faire lire ce texte-là en classe, parce que ensuite elle le dira, hein, elle justifiera ce pourquoi elle a fait ça, parce que, dit-elle, de toute façon, la plupart des élèves n'aura pas lu ce texte-là. Un certain nombre d'entre eux auront même laissé la feuille sur le bureau, ne l'auront même pas emporté à la maison. Et si jamais ensuite elle assumait, donc vous voyez, elle passe les consignes, elle fait lire pendant une heure les élèves, pendant une heure en classe, et elle a deux heures. Pendant une heure, et ensuite, bon, une heure, disons 45 minutes, après elle commence à poser un jeu de questions, hein, par un jeu de questions, pour voir la compréhension du texte par les élèves. Et elle dit, si je commençais les questions, eh bien en fait, de toute façon ça ne servira à rien, parce qu'il y a deux élèves ou trois, tout au plus, qui auraient lu le texte, donc de toute façon il faudrait recommencer. Et donc là, elle va assumer une position qui est celle de dire, ben, pendant une heure je fais lire les élèves. Alors évidemment elle ne le fait pas tout le temps, ça a soulevé, quand on montre ce genre d'épisodes et d'extraits en formation, hein, ça soulève beaucoup, beaucoup de controverses, et pas que chez les collègues d'histoire-géographie, bien sûr, hein, en disant, mais peut-être que un enseignant n'est pas là pour ça, il n'est pas payé pour faire lire des élèves pendant le temps de classe, il doit faire autre chose. Bon. Alors, du coup, ça, évidemment, ça pose un certain nombre de questions. En tous les cas, dans la manière dont cette enseignante a d'organiser le milieu pour l'étude des élèves, on peut se poser un certain nombre de questions. Compte tenu de ce que disent les élèves, et notamment ici Elodie, et des choix qu'elle fait, on peut se demander s'il y a des gestes de l'étude qui, par exemple, n'auraient pas leur place en classe. C'est aussi une question qu'elle se pose et qui est souvent posée par les débutants. Par exemple, le fait, comme le fait donc Guillemette, le fait de lire avec l'intention de répondre aux questions, est-ce que c'est un geste qui a toute sa place en classe? La mémorisation d'une poésie ou l'apprentissage des tables de multiplication, est-ce que ce sont des gestes qui peuvent s'assumer en classe, ou ces gestes doivent-ils systématiquement être renvoyés dans le privé, hein, de l'étude, c'est-à-dire à la responsabilité de l'élève et des familles? Ça, c'est un premier point sur lequel nous travaillons, bien entendu. Le deuxième point, c'est si on assume l'idée de passer plus de temps en classe, eh bien, comment rendre visible en classe ce qu'il y a à faire à la maison, aussi bien en termes des contenus de devoirs que de méthodologie. Et là, on aura également l'occasion encore d'en reparler, mais on suit une équipe sur les nouveaux dispositifs PPRE, ATP, aide individualisée, et notamment toute une équipe en collège Ambition Réussite sur l'aide aux devoirs, l'aide au travail personnel, hein. Et on voit bien là, pour l'instant, comment cette aide au travail personnel est essentiellement centrée sur de la méthodologie, c'est-à-dire là où les enseignants font finalement et répètent ce discours institutionnel qui, je vous l'ai dit en début, hein, est finalement assez bien entendu par les élèves, y compris par les élèves les plus faibles. Bien, donc là se pose de nouveau la question de l'efficacité à la fois de ces dispositifs, mais aussi de cette espèce d'augmentation à la fois quantitative et qualitative dont on parlait au début, des missions des enseignants, puisque vous l'avez compris, ces enseignants dont on parle sont des gens qui ont au niveau de leur enseignement à peu près 9 heures d'enseignement, les 9 autres heures étant réparties sur un ensemble de missions et d'animations pédagogiques, dont l'ATP. Voilà, donc ils sont pas forcément devant leurs élèves, mais là aussi on pourra en parler éventuellement. Des questions. Donc, doit-on accorder davantage de temps dans le temps scolaire, hein, pour mettre les élèves en activité intellectuelle et pas simplement les élèves au travail, comme on le disait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un temps pour l'appropriation des savoirs transmis, ce qui signifierait que les enseignants s'autorisent à travailler dans un geste, par exemple, de répétition et d'entraînement, hein, on reprend un petit peu ce qu'a dit Elodie, en disant en histoire, on ne peut pas s'entraîner, donc forcément, on ne peut pas réussir en histoire, parce que comme on n'a pas de modèle et qu'on ne peut pas refaire, on ne peut donc pas s'entraîner à la maison. Quand on travaille très près des parents, on a également le même type de discours, hein, des parents qui disent « nous, on voudrait bien faire aider nos enfants, mais quand on ouvre le cahier, alors notamment le cahier d'histoire, on ne retrouve pas d'éléments, on ne sait pas exactement ce que les enfants doivent savoir, et puis le professeur dit qu'il ne faut pas apprendre bêtement par cœur, mais savoir redire la leçon avec ses mots. Qu'est-ce que ça veut dire redire avec ses mots ? Jusqu'où on va ? Est-ce qu'il faut apprendre par cœur, pas par cœur ? Voilà. Et la demande des parents d'aider. Donc là, on est aussi dans... est-ce que les enseignants assument cette appropriation des savoirs en classe ? Et du coup, ça suppose quel type de travail, hein ? Bon, dans le rapport Glasman, qui était un gros rapport qui est sorti en 2004-2005, il posait un certain nombre de questions. Voilà, qu'on peut mettre aussi en débat. Est-ce que les élèves doivent-ils apprendre l'école avant d'entrer dans les apprentissages ? Ce qui supposerait qu'il y ait aussi tout un ensemble d'implicites et de gestes, hein, qui sont finalement laissés dans l'ombre et que les enseignants ont aussi du mal à repérer. Alors un exemple pour être un petit peu plus concrète au niveau de la copie, par exemple. La copie est un geste qui est exigé depuis quasiment la grande section de maternelle jusqu'à l'université. Et je crois qu'il n'y a pas un niveau scolaire où les enseignants ne se plaignent de la difficulté des élèves à copier correctement. Pourtant, on se rend compte que ce travail-là, ce geste-là, est assez rarement pris en charge, assez rarement enseigné. Et à chaque fois que des enseignants tentent de le faire, ils ont toujours un petit peu l'impression d'être en contrebande, hein, de faire passer des savoirs en contrebande, en tous les cas de faire ça contre l'institution et surtout pas le jour où ils seront inspectés par leurs inspecteurs. Hein. Donc là aussi, on a peut-être intérêt à re-questionner aussi ces gestes-là. Voilà, donc assez rapidement pour juste lancer bien sûr hein, le travail, en quoi l'activité des élèves peut-elle devenir une source d'apprentissage et de développement des gestes du métier chez les professeurs ? À quelles conditions bien sûr et comment l'autoconfrontation qui est donc, on le verra, un outil qui va permettre effectivement de revenir sur ces controverses et sur ces implicites du métier et peut-être assumer aussi une part des manières de faire. On verra dans l'après-midi ou demain qu'il y a des enseignants qui disent par exemple on fait le deuil du programme, c'est-à-dire qu'on dans l'équipe on a décidé qu'on n'irait pas au bout de notre programme de français ou bon voilà ici c'est l'archétype du cours qui démarre mal, ou au niveau de l'aide aussi, on a décidé d'aider les élèves de telle manière. Donc là, il y a des choix qui sont faits collectivement. Est-ce que c'est aussi un moyen de re-questionner à travers l'activité de l'élève des pratiques enseignantes ? Voilà un petit peu assez rapidement pour laisser la place à mon collègue.